Merci de votre présence. Bienvenue à toutes les deux, Julie Adek au centre et Gabriella Zalapi. On est ravis de vous recevoir, je suis ravi de vous poser des questions, comme j'ai été ravi de lire vos deux livres parus à la rentrée littéraire dernière, et tous les deux largement salués par la critique, tous les deux lauréats de prix littéraires. Julie Adek, en Angleterre, a reçu le Médicis. Je ne me trompe pas, le moment des prix, c'est toujours angoissant. Est-ce que c'est la bonne année? C'est le Médicis, hein, je crois. Et Gabriella Zalapi, Ilaria, a reçu le prix Roman France Culture des étudiants. C'est bien comme ça qu'il s'intitule. Et le prix Fémina des lycéens. Mais au-delà des prix, ce sont surtout deux livres qui nous ont intéressés. Évidemment, de parce que ce festival... tente d'interroger, à savoir en quoi les rapports de la littérature et du réel, alors le réel c'est tellement vaste, mais en quoi la création littéraire, voire la fiction, sont enrichis par un regard documentaire ou par un regard sur des événements réellement arrivés. Et en l'occurrence, c'est une partie du matériau de départ de vos livres. Mais, je prends 1000 précautions, comme vous l'entendez, le premier point commun entre vos deux livres, c'est d'abord d'avoir un personnage principal dans les deux cas. Ils ne vont pas tenir debout, je vais arrêter. Julie Adek, Anne d'Angleterre, eh bien, merci. Anne d'Angleterre dans la vie réelle est donc tirée de la vie de votre mère. Mais d'emblée, en titre, elle devient un personnage... Anne d'Angleterre, donc une sorte d'héroïne de ce livre, et j'aimerais qu'on en parle à un moment aussi. Et puis Gabriella Zalapi, Ilaria, ils ont ce point commun-là, c'est-à-dire de porter le nom de leur personnage principal pour titre. C'est une petite fille de 8 ans dont une partie de l'histoire ressemble beaucoup à des choses que vous avez vécues aussi, mais qui est également une héroïne, là, pour le coup, d'un étrange voyage. Ils ont ça en commun, de faire donc avec du réel, assurément de la littérature, mais également du roman. Julie Adek, vous êtes romancière, ça tombe bien. Vous avez publié avant celui-ci 5 romans aux éditions de Minuit, qui sont des comédies noires, c'est souvent ce qu'on en dit, des comédies sociales aussi au vitriol, des faux vaudevilles en zone pavillonnaire, des romans qui se distinguent par leur ironie, par leur humour, mais aussi par cette férocité-là, de regard sur, je le disais, sur notre monde contemporain, sur certains aspects économiques, sociaux du monde. Ce « Anne d'Angleterre » est un roman, comme vous l'avez dit, écrit avec des faits réellement arrivés. Mais pour autant, et ça ce serait intéressant d'en discuter, vous avez très tôt dans toutes les discussions tranché en disant « mais quelque part il n'y a pas de différence. Quelque part, c'est tout autant un roman. Ça ne fait pas de différence ou les différences sont ailleurs. » Pour situer ce Anne d'Angleterre, il s'agit donc, je le disais, d'événements qui vous sont arrivés, qui sont datés, datable et daté dans le livre, puisqu'en avril 2022, votre mère a fait un accident vasculaire cérébral et il a fallu ensuite s'inquiéter de sa vie future, de son éventuelle fin de vie et puis de l'accompagnement médical de ce qu'on appelle le grand âge. Et ça, c'est une partie du livre, la chronique de ces tribulations, si j'ose dire, dans un environnement médical forcément hostile, puisqu'on est en situation délicate et de souffrance. Et ça, vous le relatez avec la même... j'ai parlé de noirceur ou de la même façon d'être incisive que dans vos romans. Et puis en parallèle, d'où le titre, Anne d'Angleterre, il y a une vie, comme on écrit des vies de saints ou de figures illustres, qui est celle de la même personne, votre mère, anglaise, étrangère donc, et pour autant très proche, mais étrangère, qui est racontée comme toute vie peut devenir une figure et un personnage. Ces deux récits circulent et échangent tous les deux. Gabriella, Hilaria, c'est votre troisième livre après deux autres livres aux éditions Zoé, dont on a fêté l'anniversaire il y a 2 jours pour le début du festival. Et les deux précédents étaient des livres faits de matériaux tirés de votre histoire familiale, mais reformatés, réagencés, réinventés, si j'ose dire. Vous êtes par ailleurs plasticienne, et la particularité qu'ils avaient, c'est de mélanger les différents types aussi de matières littéraires, d'insérer du document, des traces et des formes d'enquête au cœur de ce récit familial. Hilaria, c'est le récit vu depuis le point de vue d'une gamine de 8 ans en début des années 80, qui part pour 2 ans contre son gré avec son père qui la kidnappe. Ce qu'on comprend en même temps qu'elle, on est comme embarqué, puisque c'est notre narratrice et notre regard, c'est par elle qu'on voit la situation, qu'on la comprend de par ses yeux, et ça raconte une fugue contrainte, si j'ose dire, et puis un enlèvement, quelque chose qui est angoissant, douloureux, mais qui est également, et ça c'est l'heureux paradoxe de ce livre-là, quelque chose d'extrêmement vitaliste. On est avec cette gamine dans ce qu'elle traverse d'inquiétant et de douloureux, mais on fait ce voyage initiatique, si j'ose dire, avec elle. C'est-à-dire qu'on est, en tant que lecteur, embarqué dans ce regard-là. Et c'est donc tiré également de faits réellement arrivés. Cette intro est un peu longue, mais il fallait dire quelque chose de vos deux livres. Et ces deux livres sont riches. Dans les deux cas, ce que je voudrais vous poser comme question commune au début, pour démarrer, c'est la question du début, justement, de l'impulsion de ce livre-là, puisque dans les deux cas, de façon assez différente, il est question de nécessité littéraire. Julia, vous en parlez assez tôt au début, l'envie d'écrire un livre avec de la vérité, sans trop être sûr de ce que ça serait, la vérité, puis quelque chose advient qui vous fait écrire. Gabriella, c'est une référence à Rilke que vous avez plusieurs fois cité dans des interviews, que j'aimerais, on pourrait entamer par là, que j'aimerais que vous recontextualisiez, qui vous a imposé de raconter cette histoire-là. En commençant par Gabriella, si vous voulez bien, voilà, cette question de la nécessité, de ce qui fait l'impulsion de ce livre-là, qui s'impose en fait dans un moment, c'est le travail d'écriture qui s'impose, ce sera celui-là et pas un autre, c'est cette histoire-là qu'il s'est imposé de raconter. Pardon pour ces mots un peu longs, il y avait beaucoup de choses à dire.
Bonsoir et merci pour cette invitation. En fait, oui, ça a commencé avec Rilke qui dit qu'il ne faut écrire des livres que seuls soi pouvons écrire. Et plus qu'une nécessité, en fait, c'est cette question d'être ce qui m'a, en tout cas, comme tel que je l'ai compris et entendu sur le moment, c'est le fait d'écrire une histoire que seul moi peux écrire. Cette question de kidnapping, d'enlèvement, etc. Seul moi pouvais l'écrire. Je ne sais pas si je suis claire.
C'est assez clair et net. Julia, il est question de la vérité dans les quelques premières pages. Je vais devoir défaire le bel édifice assemblé pour vous citer. C'est dit comme ça, il se passe ce qui se passe au début, puis on est dans vos activités d'écrivaine qui parle de ces livres en public, un peu comme ici. Et vous nous dites page 16, vous écrivez page 16, sauf que depuis quelque temps, je caresse l'idée d'un récit où je pourrais enfin dire la vérité, comme si je savais ce qu'est la vérité, comme si cette vérité ne logeait pas dans les romans et que l'autobiographie permettait de l'affronter toute nue au lieu d'en passer par des détours, comme si le roman n'était qu'artifice pour préserver l'entente des familles. Et ça, c'est comme un... C'est pas tout à fait l'avant-propos, c'est pas exactement les premières lignes, mais c'est dès les premières pages que cette forme de désir se voit sommée, finalement, par une réalité qui advient dans... De s'en faire au départ la diariste, est-ce qu'il a fallu enregistrer ce qui se passait? Ou est-ce que, tout de suite, la création littéraire, enfin voilà, de fabriquer de la littérature avec cet événement s'est imposé? Ça s'est présenté comment? Est-ce qu'il a fallu d'abord noter, comme on fait un journal, je ne sais pas du tout si c'est votre pratique, ou est-ce que c'est la forme littéraire qui a été l'appel? Vers la vérité.
Et bonjour, et merci pour votre invitation. Et je pense que ça s'est vraiment imposé. En fait, j'ai fait 3 de mes livres sur 6. Il y a eu une espèce d'impulsion divine. Je ne sais pas si c'est vraiment divin, mais tout d'un coup, c'était ça qu'il fallait faire et il n'y avait pas de discussion possible. C'est mon premier, mon troisième et mon dernier livre à ce jour. Tout d'un coup, il y a une espèce de presque de l'ordre de la révélation. Il faut écrire cette histoire. La différence avec cette histoire-ci, c'est que c'était en train de se passer. Donc, ma mère avait eu un accident cérébral 3 mois plus tôt. Elle était encore à l'hôpital. Je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. On s'éloignait du pronostic de mort imminente qui avait été énoncée au début. Et il y avait... j'avais vraiment le sentiment qu'une histoire singulière et quelque part scandaleuse était en train de s'écrire. Parce que bon, il y avait le traumatisme familial, bien sûr, mais il y a eu le deuxième traumatisme qui était la découverte de la prise en charge de personnes très vulnérables présentant un très mauvais pronostic. Et moi qui avais une foi inébranlable dans le service public, que ce soit l'éducation ou la santé, tout en sachant que le système de santé ne se portait pas bien, j'ai quand même été très très violemment choquée par la place ou l'absence de place faite aux personnes dont le seul tort est d'être âgées, en l'occurrence. Mais on pourrait dire la même chose, donc moi c'est une expérience de la gériatrie, mais on pourrait dire sans doute la même chose de la psychiatrie ou d'autres services hospitaliers liés à des pathologies chroniques. Donc je voulais raconter cette histoire, dont je sais très bien qu'elle est extrêmement banale, mais en même temps, je ne la vois pas racontée telle que je l'ai vécue dans les médias que je lis. Et je trouvais aussi qu'il y avait quelque chose de très vitaliste à raconter là-dedans, parce que il y a quelque chose de morbide dans la prise en charge, et chez la patiente, qui en l'occurrence était ma mère, il y avait une... Malgré l'âge, malgré l'accident, il y avait une volonté très très grande qui s'est manifestée tout de suite de vivre et de récupérer. Donc je voulais raconter ça. Je pense que c'est le scandale en fait qui a précipité cette urgence. Et puis après, ça a convoqué toutes sortes de choses de l'histoire, en l'occurrence familiale. Mais je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, donc je vais dire que ça, et puis on reviendra à l'autre aspect, peut-être.
On y reviendra. Je voulais j'ai parlé d'héroïne tout à l'heure, hein, et donc du portrait de votre mère, mais je voulais vraiment vous revenir sur cette histoire de personnage pour savoir... vous en avez parlé dans des interviews aussi, Gabriella, de comment ça a dû percoler pour fabriquer de la distance. De tester finalement l'énonciation, troisième personne, première personne, pour créer ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est là pour le coup, en plus, vous travaillez peut-être avec une matière de souvenir, donc le matériau mémoriel avec ce qu'il peut avoir de trompeur avec les années, il y a donc une création, et cette création, vous dites bien, avoir tâtonné pour la trouver formellement, cette énonciation dont j'ai dit à quel point elle était, enfin je crois l'avoir dit, à quel point elle était efficace sur nous lecteurs, à quel point elle était parlante. Et Julia, il y a aussi ça, c'est-à-dire de faire aussi le récit à la troisième personne de la vie de votre mère comme un personnage. Je voudrais commencer par Gabriella. Comment ça s'est mis en place? C'est-à-dire que vous nous avez dit la nécessité, cette histoire s'impose, je vais raconter. Je vais raconter cette tranche si étrange, si singulière d'une partie de mon enfance. Mais comment je la raconte ?
Le chemin a été long dans le sens que je travaillais à partir de souvenirs, mais je ne voulais pas écrire un texte autobiographique. Donc j'ai utilisé comme superfuge, j'ai commencé à l'écrire à la troisième personne du singulier. Enfin, j'ai cherché plein de choses et puis finalement je suis arrivée sur la troisième personne du singulier où je racontais, où j'étais donc extérieure à cet enfant et je la décrivais. Et l'idée, c'était vraiment de construire un personnage, en fait. Le personnage de cet enfant de 8 ans et de l'éloigner de moi, d'ajouter de la fiction, d'inventer beaucoup de choses aussi pour l'éloigner. Et puis, il y a un moment où... Je me suis dit, et si j'essayais en jeu ? Donc j'ai vraiment fait la manipulation, j'ai cherché le L et je l'ai basculé en jeu et j'ai lu le texte et tout d'un coup il prenait en fait une autre ampleur. Et il m'a permis d'accéder donc c'est comme si les éléments factuels étaient là et il m'a posé, enfin ce basculement en jeu m'a obligé à réfléchir à toute la question du langage de l'enfant, du langage de l'enfance, le rapport au corps, comment lui donner de la chair. J'ai travaillé dans ce sens, j'ai travaillé le rythme aussi, les virgules, enfin le phrasé de l'enfant, à quel moment comment est-ce qu'une enfant parle, saute du coq à l'âne, qu'est-ce qui... Voilà, j'ai creusé toutes ces directions pour en faire un personnage, et ainsi que Fulvio, son père. Et puis j'ai aussi utilisé des archives brutes, les télégrammes qui sont dans le livre sont des télégrammes qui sont vrais. Je les ai juste traduits. Donc voilà, j'ai cherché différentes portes d'entrée pour aussi entendre la voix de Fulvio, l'entendre directement de façon peut-être un peu brutale avec ses stops, mais qui en même temps ces télégrammes, je les estimais très efficaces, enfin très révélateurs de tout ce qu'il... De là où il était émotionnellement, chose que l'enfant, Ilaria enfant, ne pouvait pas forcément percevoir. Mon idée, c'était absolument exclure tout pathos et d'être dans la peau d'une enfant. Ça m'a permis de pas tomber dans ce piège-là. Enfin, j'espère.
Et là, voilà le passage d'une personne à l'autre et ce temps de, je sais pas, de percolation, vers une prise de distance possible du jeu, justement, fabriquer un jeu. L'énonciation, elle rythme aussi votre livre, Julia, puisqu'il y a ce récit documentaire de la traversée de l'espace médical qui est entrecoupé et très tôt par un récit à la troisième personne de la vie de votre mère, dans lequel, par ailleurs, en plus, à un moment, vous apparaissez aussi, et du coup à la troisième personne également. ce qui serait comme une autre manière de fabriquer de la distance, de fabriquer de la fiction, tout en ne faisant pas que ça. Je pense que ça rend hommage tout en faisant ce que j'appelais une héroïne tout à l'heure. Ce récit-là de la vie de Anne d'Angleterre.
Oui, je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'était justement le récit d'Anne et pas le récit de ma mère. Ce qui m'intéressait, c'était toute la part qui m'échappait, en fait. Et donc, la vie, notamment de cette femme, entre 1937 et 1974, l'année de ma naissance, qui me paraissait des années extrêmement riches, dans sa biographie personnelle, mais dans ce qu'elle témoignait d'une histoire sociale et d'une histoire des femmes entre les années 30, 40, 50, 60, 70, parce que c'est quelqu'un qui s'est énormément déplacé géographiquement en Europe, mais surtout mentalement et socialement, qui vient d'un milieu ouvrier extrêmement modeste, mais extrêmement sérieux, très puritain, orienté vers les études. Et il fallait, elle avait envie, mais elle était très poussée par la famille, enfin surtout par sa mère, à sortir de sa condition, à être la première à faire des études, à quitter cette petite ville industrielle, à aller dans une grande ville, puis à aller dans une capitale, puis à aller à l'étranger, et surtout à être de son temps, tout le temps. Donc cette évolution, elle n'est absolument pas héroïque, spectaculaire, elle n'a jamais exercé de fonction importante, mais justement c'était cet héroïsme très ordinaire, finalement, qui a été possible à une certaine période, pendant les Trente Glorieuses, et qui s'est un peu amenuisé depuis, qui m'intéressait. Et je pense qu'il y avait aussi, bien sûr, une dimension affective. Je pense que, comme beaucoup de personnes qui se sont éloignées de leur milieu d'origine, il y a quelque chose de foncièrement insaisissable chez elle. C'est-à-dire, c'est une personne qui échappe en permanence, peut-être qui s'échappe aussi en partie à soi-même. Et dans cette dimension-là, je trouvais qu'il y avait une figure, oui, quasiment mythique, évidemment, parce que c'est ma mère, hein, mais je trouvais qu'en dehors de ça, il y avait des aspects de sa personnalité qui la rendaient presque cinématographique. D'abord, il y a de très belles photos d'elle dans les années 60, hein, mais il y a aussi ce caractère fondamentalement romanesque de sa personnalité et de son histoire. Donc là où je raconte des événements autobiographiques, pour le coup, parce que je suis, quand j'en déroule sa vie, j'en arrive à 1974, en fait, c'est un peu par défaut. Moi, je n'avais pas du tout envie de parler de mon enfance, et j'ai une espèce de, même de répulsion pour ces années où ma seule envie, c'était de grandir et d'appartenir réellement au monde des adultes. Donc ça, ça a été vraiment un passage très douloureux de devoir raconter ces choses liées à l'enfance. Et j'ai fait exactement le chemin inverse, parce que moi, j'ai commencé à la première personne et puis j'y arrivais pas du tout. Et j'ai trouvé la distance en parlant de moi à la troisième personne dans ces chapitres-là. Voilà. Après... un peu d'atermoiement, je me suis dit, ça se fait pas de parler de soi à la troisième personne. Mais une fois franchi ce cap mégalomaniaque, finalement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus confortable du point de vue de l'écriture.
Ça produit de la distance, en tout cas, je pense, et ça produit de l'étrangeté, et une étrangeté assez réaliste. Et je vais essayer de t'être clair dans ce rapport-là que je vois aussi entre vos livres, c'est-à-dire que là, c'est l'enfant, Julien, effectivement, ceux qui l'ont lu se rappellent l'avoir arrivé comme presque un objet étranger. Enfin, c'est vraiment, elle, pour le coup, un personnage, alors qu'on comprend assez logiquement que c'est vous, mais ça pourrait être un personnage extérieur. Effectivement, c'est l'effet que ça fait au lecteur. Et donc, il y a une forme d'étrangeté de l'enfance, mais le regard de l'enfant que vous avez fabriqué, hein, si j'ose dire, Gabriella, le regard d'Hilaria, est aussi un regard... d'étrangeté par rapport aux choses, c'est-à-dire qu'elle vit une situation littéralement étrange, mais les télégrammes, nous, on peut les décoder, elle, pas complètement, et elle fabrique quelque chose avec cette situation-là, c'est-à-dire que le parent, en l'occurrence, le père, mais la mère, elle est en plus en trompe-l'œil, elle est absente, elle n'est pas vraiment là, elle n'est pas là, elle n'est pas dans le récit, elle est extérieure au récit. nous apparaissent dans leur étrangeté, me semble-t-il. Et c'est aussi quelque chose qui se passe parmi tout ce qui se passe dans votre livre, Julia. C'est-à-dire que c'est aussi un des enjeux de dire à la fois la proximité et l'étrangeté du parent. Vous en parlez dans le rapport que vous avez toutes les deux, mais en soi, d'une manière presque générale. C'est-à-dire que votre livre pointe ça à un moment. C'est-à-dire que le plus proche, c'est aussi le plus loin, me semble-t-il. Gabriela, l'étrangeté du parent. Enfin, en général, si j'ose dire, depuis ce que vous en avez fait. L'étrangeté du rapport filial. Ou pas.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre là où... en tout cas, Ilaria, dans le texte, regarde en effet peut-être son père comme si elle ne le connaissait pas ou très peu. Et c'est une situation tellement étrange, et tout est nouveau, en fait. Et elle est dans un huis clos avec lui, elle est dans un rapport au temps avec lui, enfin dans une continuité qui fait qu'elle... je crois pas que c'est ça que... Je crois... Je ne suis pas sûre de bien comprendre, en fait.
Il nous apparaît d'autant plus étrange que ce qu'elle vit, elle le relate de façon presque commune, en fait. Elle le relate de façon presque commune, les événements s'enchaînent, elle s'adapte absolument à cette réalité, mais elle nous apparaît avec d'autant plus d'étrangeté. Ce qui apparaît étrange, me semble-t-il, c'est effectivement l'étrangeté du rapport filial, même s'il y a de l'attachement, même s'il y a, voilà, il y a de l'amour là-dedans, mais c'est comme s'il y avait une, à mon sens, un zoom là-dessus, sur l'étrangeté de ce rapport qui semble si évident, puisque institué, père, enfant, on s'aime, et puis voilà. Et bien là, il y a toute cette part d'étrangeté, y compris dans l'amour, qui apparaît. Du fait de ses yeux, du fait de ce regard-là. Désolée si je le dis pas clairement.
Non, mais enfin, je crois que j'ai. je crois que, ce qui est peut-être étrange ou ce qui peut peut-être vous provoquer cette sensation.
Ça me plaît, hein. Enfin, je sais pas. Vous voyez.
Moi, ouais. C'est le fait que Ilaria se promène, son père la promène plutôt, mais qu'il est pas là. En fait, il est dans un autre imaginaire, enfin, il est dans un rapport à sa femme qui n'est pas là. Donc, elle est un objet à ses côtés. Donc, elle tente comme elle peut d'entrer en contact avec lui. Ça arrive par moments, ils partagent un imaginaire ensemble par moments. Il lui parle aussi. Comme si elle était une adulte aussi parfois, mais il reste en fait complètement enfermé dans son monde, et elle le voit petit à petit dégringoler, et donc elle reste extérieure, même s'ils sont dans cette proximité spatiale, elle reste très extérieure.
Et Julia, la mère, elle est étrangère. En plus de parler de l'étrangeté de ce lien-là. Et elle nous apparaît comme ça. Hein. On revient, pour le coup, au personnage de fiction, mais qui permet de faire voir ça sans être dans quelque chose de l'ordre du pathos ou de l'explication. On perçoit le fait qu'elle soit étrangère autant que cette étrangeté de rapport.
D'abord, je pense que s'il n'y a pas d'étrangeté, il n'y a pas de sujet, en fait. On ne peut pas écrire un livre sur un sujet qu'on maîtrise entièrement. Enfin, c'est aussi une recherche au même titre qu'une recherche universitaire ou une recherche plastique, j'imagine. Si on sait, il n'y a pas besoin, en fait. Donc, l'étrangeté de ma mère, de fait, elle m'a beaucoup préoccupée. Il y a... Il y a quand même au centre la question du lien entre la mère et la fille, qui pour moi est un sujet récurrent dans peut-être pas tous mes livres, mais en tout cas c'est très très présent, ce lien qui est d'apparence le plus naturel, parce que l'instinct maternel, on sait bien que c'est instinctif, n'est-ce pas ? Et évidemment avec la fille, ça doit être une osmose immédiate d'autant plus naturelle. Bon, moi, c'est pas du tout l'expérience que j'en ai faite, mais c'est en effet, peut-être au point de vue métaphysique, le lien le plus viscéral qu'on puisse imaginer. Enfin, le lien entre la mère et l'enfant, en l'occurrence, le lien entre la mère et l'enfant unique, et qui en plus est une fille. Donc, la différenciation sexuelle n'opère pas. Et c'est ce lien qui se poursuit à travers les années en miroir, et cette question de comment réussir à se distinguer l'une de l'autre et à s'entendre en se séparant. Donc bon, ça c'est des questions qui m'occupent depuis extrêmement longtemps. Et je me souviens d'avoir été interrogée très jeune par cette question. Pour moi, ma mère m'était, malgré ce... Il y avait une espèce de paradoxe entre le lien immédiat et cette étrangeté que j'attribuais au fait qu'elle était étrangère et au fait que nous parlions des langues étrangères, parce que j'ai appris le français avec ma mère qui parle le français très bien, mais ça n'est pas sa langue. Ma langue, c'est ma langue paternelle, en fait. Moi, j'ai été élevée dans le français. Elle aurait pu me parler anglais, mais en fait, elle avait choisi le français. Elle avait choisi, pour une raison en partie obscure, de se reconstruire ou de se construire une deuxième fois en France. Et d'une certaine façon, elle a voulu effacer son identité anglaise. Donc, ça ne pouvait pas coïncider complètement. Il y avait ce malentendu linguistique perpétuel lié au fait qu'elle s'exprimait dans une langue qui n'était pas la sienne. Déséquilibre que moi j'ai voulu compenser plus tard, parce qu'à l'adolescence, tout d'un coup, j'ai décrété qu'on allait changer de langue. On allait abolir le français. Ça avait évidemment un rapport avec le père. Mais on allait abolir le français et on n'allait plus pratiquer l'anglais que l'anglais. Et donc je me suis retrouvée dans la situation inverse, qui était de tout d'un coup devoir exprimer des choses très intenses, très affectives, dans une langue qui n'était pas la mienne, que j'avais apprise, que je m'efforçais de parler le mieux possible, que je m'efforçais de lire le mieux possible, mais où il y avait toujours cet obstacle de la langue qui n'est pas naturelle, en fait. Donc l'étrangeté, elle s'est jouée dans notre relation et sans doute que ça participe du fait que je trouvais qu'il y avait là un sujet romanesque. Ouais.
Vous avez dit dans une interview à Collatéral, je pense, vous citiez Joseph Losey, vous parliez des gens du passé comme d'un voyage dans un pays étranger. Et c'est là où pour moi tout se redouble, essayer de faire de ça une question, parce que là pour moi il y a un rapport assez fort. Non seulement j'allais vous demander directement, Gabriella, ce que ça vous évoque, ça, parce que la question des langues et des origines croisées, elle vous concerne aussi, c'est-à-dire de quelle langue on adopte à la maison et ensuite dans la vie, elle vous a traversé. Et puis par ailleurs, de façon très explicite dans le livre, là aussi pour renverser des clichés, c'est un voyage en Italie, mais c'est pas la Dolce Vita, enfin voilà, c'est un pays étranger, a priori estival, ou un pays qu'on associe aux vacances, mais l'italien, là, est aussi un redoublement d'étrangeté. Donc, l'Italie, c'est le pays du père, où il emmène l'Ilaria de force. Donc ça, sur le rapport à l'origine croisée et aux langues multiples, c'est quelque chose qui est là aussi. C'est-à-dire, cet italien-là, a priori festif, n'est pas si joyeux dans le livre.
Alors, l'Italie, Ilaria, enfin, cet enfant a vécu en Italie jusqu'au moment où elle est partie vivre en Suisse avec sa mère. Donc, c'est son lieu premier. D'où le fait, enfin, et le fait que la langue, enfin, elle acquiert le français dans un deuxième temps, avec une mère anglaise qui, enfin, donc, c'était assez, enfin, un peu compliqué, les langues. Et elle, l'italien, je ne, c'est pas une étrangeté, pour moi en tout cas, dans ce texte. Au contraire, en fait, c'est plutôt le lieu de l'origine. L'étrangeté, elle est plutôt dans ce lien, dans le fait d'être exclu, enfin que cet enfant est exclu d'une certaine façon d'une relation avec son père, et ils vivent aussi dans cette voiture, en tout cas dans un premier temps. Donc ils sont aussi comme des... Ils sont exclus du monde, en fait. Ils s'excluent du monde. Ils vivent dans une forme de clandestinité. Ils bougent tout le temps. Les gens qu'ils rencontrent, c'est toujours des gens de passage, jusqu'au moment où ils vont chez la grand-mère. Mais sinon, jusque-là, il y a une forme, il y a un nomadisme, en fait. Et avec... l'impossibilité de s'enraciner où que ce soit. Et ça, pour un enfant, c'est quand même... C'est plutôt inconfortable.
Oui, inconfortable. Mais cette Italie-là, de 80-83, puisque nous arrive sonorement les informations de la radio... c'est aussi une Italie qui ne va pas très bien. Ils sont eux-mêmes en cavale dans un pays qui subit un climat politique très très inquiétant en lui-même. C'est-à-dire que c'est comme si ça redoublait danger-là. Enfin, ce sentiment de danger.
Oui, oui. Pour moi, le contexte des années de plomb était une parfaite caisse de résonance, en fait. Qui correspondait à ce qui se passe d'une certaine façon dans cette voiture, avec aussi le fait que l'histoire, à propos de cette époque, continue de s'écrire. C'est quelque chose qui reste irrésolu. Ces années de plomb en Italie, encore aujourd'hui, ce sont des questions qui restent irrésolues. Ce genre d'événement reste irrésolu, et ça c'était quelque chose qui m'intéressait doublement, en fait.
Du fait de ce sujet central, on vous a beaucoup et souvent interrogé, Julia, sous un angle du roman intime ou familial, c'est aussi dans le titre, et moi ce que je vois apparaître souvent, et dans le livre et dans vos réponses, c'est que, en plein de points, c'est un roman social. Les origines ouvrières, le nord de l'Angleterre, et là, on est vraiment presque dans des figures de roman social, mais par ailleurs, dans le texte de documentaire au présent à la première personne, le climat social là, actuel de la France, une certaine déliquescence, des formes de violence sociale sont explicitement mentionnées également.
Merci de le relever. Je ne sais pas comment prendre votre question, parce que... Je ne sais pas comment la prendre, d'ailleurs.
Peut-être parce que je n'y ai pas ajouté de ton interrogation. Vous dites que c'est juste une remarque. Non, je peux ajouter à ça qu'effectivement, c'est dire que ce drame intime, enfin, ce qui se passe de douloureux, est relié politiquement à notre monde et à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'une histoire d'intérieur.
Ben, c'est vrai que ça pose la question du sujet. Moi, je me suis dit, les premiers temps où... l'épisode hospitalier, pour prendre cet exemple-là, a duré 6 mois. Et au bout de très peu de temps, à force d'y aller tous les jours, je me suis dit, mais il y a un roman à faire ici. C'est un théâtre, c'est un monde clos, j'adore les huis clos. Il y a des rôles extrêmement bien répartis, le médecin-chef, les médecins, les internes, les infirmières, les aides-soignantes, les patients. Il y a un roman à faire, et sur l'Angleterre, évidemment qu'il y a un roman à faire. Il y a notamment un roman à faire, et peut-être même une série télévisée, sur ce grand complexe industriel qui a permis à la région dont vient ma mère de connaître une épopée florissante des années 30, où toute l'Angleterre était sinistrée par la crise de 29, aux années 80, où on assiste au démantèlement de toutes ces industries-là et la région plonge dans le chômage. Donc là, il y avait une épopée industrielle à écrire et il y avait une épopée hospitalière à écrire. Et peut-être que j'aurais pu faire ça. Ça aurait peut-être davantage ressemblé à mes précédents livres, mais je pense que j'avais envie d'une forme de transgression qui consistait à justement n'utiliser que des éléments réels ou avérés de mon point de vue pour en faire un livre. Je pense que la brutalité de l'accident plus la brutalité de la prise en charge médicale, ça a aussi induit une nécessité de transgression personnelle. C'est-à-dire, avant, j'avais ffait comme ça, et j'avais fait 5 livres, dont je suis très contente, mais j'ai commencé à m'inquiéter avec le dernier de ces 5-là, en me disant, mais est-ce que je ne suis pas en train de fabriquer mes propres ficelles et de mettre en place une forme de recette que je pourrais répéter à l'infini, et après tout, pourquoi pas, ce serait peut-être confortable, mais en fait, le confort, je trouve ça inconfortable. Donc, j'étais mal à l'aise avec cette question-là. Et puis là, il y a la brutalité des événements, où de toute façon, je ne pouvais pas m'en remettre aux vieilles recettes, si tant est qu'elles existaient. Donc, je voulais affronter le sujet de manière aussi brutale qu'il l'était, en m'utilisant comme personnage, en racontant des choses qui ne sont pas nécessairement valorisantes pour ma propre personne, en me disant justement que si je m'autorisais l'autobiographie ou l'autofiction, comme on veut, il fallait surtout se garder de la séduction comme du pathos, c'est-à-dire ne pas chercher à brosser un portrait favorable, pour ne pas tout simplement tomber dans le narcissisme ou le nombrilisme, qui est vraiment le pire écueil de ce genre-là. De là où je partais, j'ai pris des risques narratifs qui consistaient à traiter ce sujet hospitalier, ce sujet de l'épopée industrielle, on va dire, avec des éléments personnels. Et en fait, ça a déplacé beaucoup de choses du point de vue de l'écriture. Donc finalement, bon là, je déborde de votre question, mais en fait, ça m'a conduit à un cheminement d'écriture tout à fait inespéré, qui n'était pas ce que je recherchais principalement, mais ça m'a vraiment sorti de mes rails ou des rails que j'étais en train d'installer dans les précédents livres.
Et Gabriella, il me semble aussi que ce livre-là procède différemment. Il y a toujours un sens de l'ellipse et du silence dans vos livres. Il y a toujours du blanc entre les mots, si j'ose dire, comme une composition plastique dans laquelle le blanc est important aussi, donc l'ellipse. Mais ce qui me semble absent, en tout cas pas présent de la même manière, c'est l'image, alors que vous êtes plasticienne. C'est-à-dire que les informations extérieures qui nous sont ramenées, alors oui, il y a des télex, mais c'est du texte, elles viennent de la radio, elles sont sonores. Et or, le deuxième livre partait et rayonnait beaucoup sur une image. Et dans mon souvenir du premier, que je n'avais pas sous la main là, il y avait des documents, voilà, ou alors je les ai peut-être réinventés parce que ça fait quelques années, mais il y avait des documents, photos. Là, cette matière-là n'est pas présente dans le livre. C'est-à-dire que les images sont celles du père, mais c'est des scènes, c'est fugitif, c'est toujours en mouvement, c'est ses chaussures, c'est des perceptions de la fille. Mais effectivement, il me semble j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent dans la construction. Pour ce livre-là.
Oui, mais mettre des images, pour moi, enfin, dans le premier comme dans le deuxième, ça avait un sens vraiment très, très important. Encore plus, j'ai envie de dire, dans le deuxième. C'était pour moi la colonne vertébrale du texte. J'ai très peu d'images d'une part et d'autre part elles n'étaient pas du tout nécessaires. Je ne veux pas tomber dans une formule, je ne veux pas tomber dans le fait d'écrire un texte, mettre des images, ce n'est pas une histoire d'illustration, j'ai horreur de ça. Il faut que l'image ait un sens, il faut qu'elle apporte quelque chose et là aucune image ne me semblait pertinente. Peut-être en dehors de la couverture qui est une image d'archive et que j'ai choisie d'une part parce que c'est là où commence le livre, en fait. C'est là que Hilary a fait le cochon pendu sur ces barres de métal-là. Et c'était cette présence de cette femme avec cette robe blanche qui est pas la mère de Hilaria, mais qui est une femme qui est l'absente, en fait, qui quelque part, enfin, c'est la mère toujours absente qui est absente dans le livre. Mais je voulais cette image correspondait à cette présence fantomatique qui traverse le livre. Mais c'est pas une formule de mettre des images. C'est même difficile de mettre des images qui ne viennent pas illustrer, souligner, faire que ces images apportent un monde encore autre. Pour moi, en fait, la présence des images dans les deux autres textes, c'est une façon de mettre en action, de mettre en mouvement le lecteur. C'est d'activer son regard, de changer de paramètre, d'activer le regard, de lui laisser une place pour l'interprétation. Et là, il y a des blancs dans ce texte, et c'est cet espace-là, enfin le blanc, est la place que je laisse volontiers aux lectrices et aux lecteurs s'ils ont envie de se l'approprier. C'est une façon de faire passer du temps, c'est une façon de laisser les mots faire des ronds, vous savez, comme quand on lance une pierre dans une mare laisser le temps de faire un écho, une forme d'écho.
Merci. Et on a parlé de l'importance des images pour vous, et justement, même aussi quand elles n'y sont pas, enfin, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcées. Et Julia, ça me fait écho sur l'importance de la littérature au cœur de votre livre, c'est-à-dire de votre travail d'écriture dans le rapport à votre mère, mais vous avez dit quelque part aussi que votre lien spécifique, il est sur la littérature. Et le livre, il réfléchit là-dessus. Il tente de réfléchir là-dessus, y compris en n'étant pas sûr, hein, en se demandant si la littérature est pas plus puissante que la vie, voyez, mais il y a une vraie interrogation sur ce que produit la littérature, au cœur de ce livre-là. Dans votre vie, évidemment, puisque c'est ce qui est relaté, dans celle de votre mère, mais sans être un essai, c'est un des cœurs du livre. Cette question.
Oui, je pense que c'est une période où j'ai eu vraiment l'impression, voire la preuve, qu'il y a plus de réalité dans la littérature que dans la vie, qui est parfois tellement chaotique et informe qu'on ne peut pas lui donner de consistance tant qu'on a mis des mots dessus et qu'on a organisé ces mots. Le rapport à la langue, ben, on l'a évoqué à travers l'anglais, le français tout à l'heure. Je vais dire un truc qui a l'air d'un gros cliché, mais je pense que finalement, quand, le moment où on a trouvé une langue commune avec ma mère, c'est quand on a commencé à partager les grands romans de la littérature française et anglaise. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de malentendu permanent, jusqu'à ce que, quand j'étais en quatrième, elle me recommande Madame Bovary, que j'ai lue avec passion, sans évidemment comprendre grand-chose aux atermoiements d'une bourgeoise du milieu du XIXe siècle. Mais il y a eu cette espèce, cette impression d'une langue extrêmement familière, je pense, par la domesticité du texte et par la place des objets. Il y a une place très importante des objets dans Madame Bovary, des repas, des scènes la scène de la noce, la scène de la description de sa chambre de jeune fille, tous les moments où elle choisit tous ses tenues, ses colifichets, là, les trucs qui vont finir par la ruiner. Tout d'un coup, il y avait une espèce de familiarité de ce cadre normand. D'ailleurs, Normandie, France-Angleterre, hein. Oui, il y a toutes sortes de connexions.
On y revient.
Hein, on y revient. Et là, il y a eu un terrain d'entente avec ma mère qui s'est poursuivi parce qu'après, elle m'a recommandé Léo de Hurlevent, que j'ai aussi lu avec passion, Jane Austen et Henry Fielding et plein d'auteurs du 19e. Et puis voilà, à partir de là, on a partagé vraiment les livres qu'on s'échangeait, dont on parlait en permanence. Et je pense que la langue commune et peut-être aussi la vocation, enfin le désir d'écrire, de publier des romans, il est né de tout ça. Donc le rapport au livre est un des fils du roman, d'autant que c'est un truc qu'on n'a pas évoqué, mais quand même, il y a une quête de la vérité qui est que au moment où ma mère a cet accident, moi j'ai une question très importante à lui poser sur notre généalogie. C'est une question que depuis des années je repousse à plus tard en me disant mais malgré son âge elle est en parfaite santé donc elle a tout le temps de me répondre, et tout d'un coup les séquelles de l'accident font qu'elle ne peut certainement plus répondre à cette question qui est une question simple mais qui est quand même extrêmement chargée de conséquences, et donc je me retrouve avec cette espèce d'énigme familiale à résoudre par mes propres moyens. Je découvre que tous les documents qui ont existé à un moment, elle les a détruits, et la seule chose à quoi je peux m'en remettre, c'est les livres. Et je cherche des clés dans des livres, et effectivement, j'arrive à une forme de vérité grâce à ça.
Et oui, et j'avais une question hyper complexe qui nous aurait pris un quart d'heure de plus, mais j'avais envie, on en parlera autour d'un café, moi j'avais envie de vous faire partager les résonances du mot secret, justement, et ses ambiguïtés. Parce que l'impression aussi que chez Gabriela est très différemment, mais ce sens de l'ellipse produit de secret autant qu'il nous produit d'image. C'est-à-dire qu'on est... très agréablement partagé, en fait, sur les interprétations. Comme vous avez commencé à lire, on a du travail à faire en tant que lecteur ensuite, c'est-à-dire que ça ouvre. Et effectivement, votre rapport au mot secret et au dit secret de famille, pour prendre cette expression surannée, il est aussi très intéressant dans le livre. Bref, je n'en ferai pas une question, mais juste une sorte de remarque finale pour laisser la parole au public pendant les quelques minutes qui nous restent. Si vous avez une question, on a le temps pour une, je pense. Pour rendre l'antenne dans les temps, puisque la rencontre suivante va avoir lieu ici aussi. Eh bien, si vous n'en avez pas, je vous cuisinerai à un moment sur ces histoires de secrets dont je ne sais pas exactement faire une question. C'était une forme de remarque. Il y aurait encore beaucoup à dire, et j'espère surtout que si vous ne les connaissez pas, ça vous a donné envie de lire ces deux livres, qui sont tous les deux très, très beaux et grands dans ce qu'ils permettent d'ouvrir justement en nous, lecteurs. Trouvais-je. Rencontre suivante à 19h ici même avec Laura Poggioli et Florent Forestier, c'est ça ? Voilà. Mais il y a dédicace ici pendant ce temps-là, c'est là ? Avec les deux autrices, avec Julia Deck et Gabriela Zalapi. Merci à toutes les deux. Bonne suite de festival.